Alors, je suis Lucie Dumas, chargée de projet vie étudiante et handicap à la COMU, Université de Lyon, qui agit sur un périmètre Lyon-Saint-Étienne. Et je suis accompagnée de Marion Saint-Dezin, qui est médecin directeur au service de médecine préventive de l'Université Lyon 3. Donc, nous allons vous faire une présentation basée sur l'expérience de nos collègues au sein des universités et des grandes écoles. Alors, tout d'abord, nous allons vous présenter un peu les profils de ces étudiants au sein de nos établissements à partir d'un recensement qui a été fait en 2013-2014. Donc, il y a 1141 étudiants en situation de handicap sur les 18 établissements qui avaient répondu à l'enquête à cette période, 914 en université et 227 dans les principales grandes écoles sur un total de 129 030 étudiants, donc pour l'ensemble de ces établissements. 423 étudiants qui ont des troubles du langage, 324 dans les 4 universités, ce qui représente 35,4%, et 99 dans les principales grandes écoles, où là on monte à 43,6%. En moyenne, nous avons donc 37% des étudiants handicapés qui sont des étudiants dyslexiques, et ces chiffres sont en évolution constante, chaque année on en accueille davantage.
Juste pour préciser un petit peu, vu qu'on avait eu une question sur le nombre de dyslexiques peut-être du secondaire qui accédaient à l'université, c'est vrai que les chiffres de l'inspection académique de l'éducation nationale, alors là voilà, à l'université on est presque, enfin à Lyon en tout cas, à un bon tiers d'étudiants dyslexiques. Les chiffres que j'ai pu obtenir un petit peu de l'inspection académique au niveau du Rhône, c'était près de deux tiers quand même des aménagements qui était fait pour le bac, pour des étudiants 10. Alors, c'est vrai qu'ils classent les choses de façon un peu différente. Ils mettent en fait, dans les troubles spécifiques des apprentissages, tous les dyslexiques, dyspraxiques, dyscalculiques, etc., les TDAH, les enfants précoces, etc. Nous, là, c'est des chiffres qui indiquent vraiment le nombre d'étudiants qui présentent des troubles spécifiques du langage et de la parole. Donc voilà. Alors voilà, du coup, est-ce que la diminution, elle est liée au fait que peut-être tous les dyslexiques n'accèdent pas à l'université? Il y a une diminution, certes, parce que nous, les dyspraxiques, etc., sont classés ailleurs. Il y a aussi le fait qu'à l'université, on a du coup un nombre d'étudiants en situation de handicap plus important pour des troubles psychiques, pour des troubles viscéraux, qui représentent une part plus importante que dans le secondaire aussi. Voilà.
Alors, ces étudiants dyslexiques, en ce qui concerne les universités uniquement, donc là on parle de Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3 et l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, pour une grande majorité, ils sont dans les filières sciences fondamentales et applications, suivis de droit, sciences politiques, puis sciences humaines et sociales, médecine et les filières médico-sociales, puis lettres, etc. Voilà, mais une grande majorité quand même dans les filières sciences dures, quoi. Pour les niveaux d'études, nous avons 48% qui sont en licence, 46% en master, et après 3% BTS et 3% doctorat. Alors, on va vous parler un peu du contexte réglementaire qui cadre les missions d'accompagnement des étudiants en situation de handicap dans nos établissements. Notamment au niveau des obligations de l'établissement, dans la loi du 11 février 2005, il est précisé que les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants handicapés ou présentant un trouble de santé invalidant dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études. Le rôle du président d'université, il est garant du respect de la loi au sein de son établissement. Il s'attache à définir et à rendre lisible sa politique d'établissement en matière de handicap. Donc pour cela, il se dote de l'appareil politique et fonctionnel qui lui permet de remplir cette obligation légale. De la façon suivante, il inscrit explicitement le handicap dans la lettre de mission de l'un des membres de l'équipe de direction de l'université. Il garantit l'accessibilité dans toutes ses dimensions au sein de son établissement, donc le bâti, le savoir, les informations, la vie étudiante. Il veille à ce que soit rendue publique la procédure d'accueil et d'accompagnement des étudiants handicapés. Il s'assure que la structure d'accueil et d'accompagnement des étudiants handicapés qui existe au sein de son université soit en mesure d'assurer pleinement sa mission. Il désigne des correspondants handicap chargés de relayer la politique menée dans l'université au sein des composantes. Donc, à ce titre, il est garant de la validité des examens, quelles que soient les modalités et la forme, donc que ce soit du contrôle continu, des écrits, des oraux, des travaux dirigés, des travaux pratiques, et également les concours qui relèvent de sa compétence. Il est accompagné et éclairé de l'avis du médecin qui est nommé par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, donc la CDAPH, et de la proposition de l'équipe plurielle, on reviendra sur ces termes un peu plus loin. Et c'est à lui que revient pour chaque étudiant handicapé présentant des besoins de compensation la décision des aménagements éventuels pour la passation des examens et concours. Au niveau des grandes écoles, ce que dit la charte handicap qui a été signée par la conférence des grandes écoles, c'est que la structure d'accueil est dirigée par un référent handicap. Donc celui-ci est identifié, il est compétent et formé et désigné par le directeur d'établissement. Donc, il a la responsabilité, de par ses capacités, à analyser les besoins matériels de l'étudiant relatifs à ses études et de par ses compétences à mettre en place les moyens correspondants. Il est l'interlocuteur naturel de toutes les structures internes ou externes associées. Sa mission au référent handicap dans les grandes écoles, c'est de participer à l'analyse des besoins de l'étudiant, donc en lien avec les équipes pluridisciplinaires des MDPH, l'accueil et le suivi tout au long de l'année des étudiants en situation de handicap, la mise en œuvre des moyens logistiques qui permettent à l'étudiant de suivre une scolarité dans les meilleures conditions qui soient, et la coordination avec les départements d'enseignement et de recherche, les équipes d'enseignants et les services administratifs. Une fois qu'on a dit tout ça, c'est un cadre théorique, et chaque établissement, ça fait rire mes collègues dans l'Assemblée, fonctionne en autonomie dans ses procédures et fonctionnements, et donc définit sa propre procédure d'accueil et d'accompagnement des étudiants en situation de handicap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de schéma clé, de méthodologie écrite, c'est à chacun de mettre en œuvre sa propre politique et ses propres procédures. Ce qu'on peut quand même dire, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure avec l'intervention de Fabienne de Strasbourg, c'est qu'il existe maintenant une association qui s'appelle APACHE, qui est une association des chargés de mission handicap, des professionnels de l'accompagnement qui travaillent sur le handicap, qui est une association nationale et qui rassemble du coup l'ensemble des collègues autour des questions de professionnalisation du métier, et qui permet des rencontres, des échanges de pratiques et de trouver des solutions communes à l'ensemble des problématiques rencontrées. Donc on est vraiment sur une professionnalisation du métier et une structuration de l'accompagnement, ce qui ne veut pas dire que ça ne se faisait pas bien avant, mais en tout cas on réfléchit aux méthodes et on essaie de trouver des solutions ensemble.
Alors maintenant, on va vous détailler un petit peu le circuit en fait de la demande d'aménagement et les interlocuteurs pour les étudiants en situation de handicap. Alors, tout étudiant en situation de handicap à l'université, qu'il possède un dossier MDPH ou non, parce qu'on a vu que en fait en pratique il y a très très peu de dyslexiques qui ont une reconnaissance de leur handicap par la MDPH, peuvent faire une demande d'aménagement pour les études et les conditions d'examen. Alors, comment ça se passe? Donc, ils s'inscrivent d'abord au pôle handicap, à la mission handicap, qui est vraiment en fait l'interlocuteur privilégié de l'étudiant, et ils prennent rendez-vous avec le médecin du service de médecine préventive, donc comme on l'a dit, qui est désigné par la CDAPH. C'est pas n'importe quel médecin qui peut prescrire des aménagements, il faut être désigné par la CDAPH. Donc, pour un étudiant qui est dyslexique, le médecin donc va lui demander de venir avec un bilan orthophonique qui est récent. On dit souvent inférieur à 2 ans. En pratique, on est souvent, au moins 1 en licence, 1 en master. Un dossier médical plus complet s'il en a un, et aussi c'est important qu'il vienne avec les aménagements qu'il a pu avoir avant, que ce soit pour le bac ou dans une autre université, parce qu'on se base toujours sur ce qui a été fait, sur ce qui a été mis en place avant. Donc, c'est important de comprendre que le médecin, en fait, il émet qu'un avis en concertation avec l'équipe plurielle, et qu'ensuite, cet avis, il doit être validé par l'autorité administrative de l'université, donc le président de l'université ou alors le directeur d'établissement pour une école. L'autorité administrative peut aussi être représentée par une personne en fait qui est désignée par le président. Par exemple, à Lyon 3, ça va être signé par le vice-président vie étudiante. Voilà. Oui, c'est important de préciser qu'en tous les cas, l'autorité administrative, elle suit quand même l'avis qui est préconisé par le médecin et par l'équipe plurielle. Hein. C'est extrêmement rare quand ce n'est pas validé. Ensuite, c'est vraiment donc la mission handicap qui va être en charge de la mise en œuvre de ces aménagements et qui va vraiment jouer le rôle d'interface entre le service de médecine préventive, les enseignants, enfin les équipes pédagogiques, les secrétariats, les différents services de la vie étudiante, les partenaires externes. Alors, l'accompagnement des étudiants dyslexiques dans les établissements d'enseignement supérieur. Pour vous détailler donc un petit peu ce qu'est l'équipe plurielle, donc elle est placée sous la responsabilité de la personne en charge de la mise en œuvre de la politique handicap de l'établissement, donc qui est désignée par le président. Elle réunit donc les représentants des différents services de la vie étudiante, la mission handicap, le service de médecine préventive, le SCIO qui est le centre commun universitaire d'information et d'orientation, le BAIP, le bureau d'aide à l'insertion professionnelle, le service des sports, le service de documentation, et en fait des représentants enseignants, c'est intéressant, qui est un référent handicap au sein de chaque composante. Cette équipe plurielle, elle est composée donc de membres permanents et de membres du coup voilà auxquels on peut faire appel en fonction du cursus de l'étudiant, de son handicap, de ses demandes, etc. Donc elle a pour mission vraiment de conseiller et d'accompagner les étudiants dans leurs demandes de compensation et d'instruire ces demandes. Ces demandes, elles peuvent être variées. Hein. Un étudiant n'est pas obligé de demander d'ailleurs des aménagements pour les examens. Hein. Il peut uniquement demander des aménagements d'études. Ça va concerner aussi l'accès à l'environnement de travail, l'accompagnement à l'insertion professionnelle et la vie sociale au sens large. L'évaluation des besoins, donc elle se fait comment ? Elle prend vraiment en compte les capacités et les limitations de l'étudiant. Les spécificités de son parcours de formation, forcément l'évaluation des besoins, elle ne va pas être la même selon le cursus suivi par l'étudiant et selon son projet professionnel en fait. Elle prend également en compte les ressources et les services de l'université et l'environnement qui est offert par celle-ci et qui peut varier d'une université à l'autre bien entendu. Donc, l'équipe plurielle, avec l'étudiant, elle élabore ainsi à ce qu'on appelle le PAEH, le plan d'accompagnement de l'étudiant handicapé, et qui fait suite en quelque sorte au PPS, si vous avez entendu parler dans le secondaire, le projet personnalisé de scolarisation. Voilà. Elle comporte donc les mesures d'aménagement qui peuvent porter sur l'organisation du cursus, la mise en place des aides humaines et, ou les aides techniques. Il est mis en place donc par la structure handicap, il est modulable en cours d'année selon l'évolution des besoins de l'étudiant, etc. Donc, et l'étudiant peut faire appel à la commission plurielle, que ce soit même avant d'intégrer l'université, pour déjà voilà et préparer avec lui ce qui va être mis en place. À la rentrée, elle peut être réévaluée après les examens du premier semestre pour voir comment voilà il a vécu aussi le premier semestre, est-ce qu'il y a des adaptations à faire ou pas, et en fin d'année aussi pour faire le bilan de l'année et prévoir s'il faudra des évolutions pour l'année prochaine ou pas. Il est important en tout cas de préciser que ces mesures d'accompagnement, elles doivent absolument préserver l'autonomie de l'étudiant et l'accompagner vers l'autonomie. Là, on est vraiment à l'université, on est dans une perspective d'avenir professionnel et donc d'autonomisation de l'étudiant. Alors, les problématiques les plus souvent rencontrées dans la phase d'évaluation des besoins. En fait, on a souvent affaire à des bilans orthophoniques très divers, avec une qualité et une précision très variables. C'est vrai qu'on demande bien à l'université à ce que les bilans soient normés, soient chiffrés, qu'on nous parle en écart-type par rapport à la normale pour qu'on puisse vraiment situer l'étudiant, où est-ce qu'il se situe par rapport à la normale des personnes de son âge. Et voilà, tous les bilans ne sont pas rédigés de la même façon. On a vu aussi que les médecins forcément sont peu formés sur les troubles spécifiques des apprentissages, encore moins à la lecture des bilans orthophoniques, qui peut s'avérer assez compliqué. On a aussi une difficulté dans le sens où en fait peu de tests existent pour ont été validés en tout cas pour les adultes tous les orthophonistes ne les connaissent pas non plus et ne les utilisent pas. Donc on a souvent en fait des tests qui sont normés que jusqu'au niveau 3e. Donc on peut déjà se poser la question, quelle est la validité en fait de ces tests pour des étudiants? Et aussi pour les étudiants qui ont eu un long passé de rééducation, qui finissent par connaître ces tests un petit peu par cœur, est-ce qu'une amélioration des résultats va signifier que bon, il finit par connaître ces tests et que les résultats sont biaisés, ou est-ce que finalement il arrive aussi de plus en plus à mettre en place des mesures des moyens de compensation de son handicap? Est-ce que son handicap finalement il finit par être compensé ou pas, quoi? Donc voilà. Et moi, je trouve aussi très difficile, en tout cas, d'évaluer la nécessité d'un ordinateur pour un étudiant. C'est vrai qu'en plus, les orthophonistes en parlent peu, parce que je pense que les ordinateurs sont peu utilisés dans le secondaire. Donc, c'est vrai que je pense que le maintien à l'écrit est important. À l'université, on réfléchit un petit peu autrement, mais et donc il y a peu de préconisations, en tout cas, de l'ordinateur qui sont faites par les orthophonistes. Et c'est difficile aussi, en fait, des fois, d'évaluer la durée du temps supplémentaire qui sera nécessaire, en fait, pour les examens. Parce que c'est vrai qu'on parle tout le temps de tiers-temps. Pour le bac, en fait, c'est vrai qu'il n'y a que le tiers-temps. Alors qu'en fait, il y a des universités où il existe plein de temps différents. Moi, il y a des collègues qui m'ont dit, chez nous, on a un quart-temps, un dixième de temps, un huitième de temps, tout ce que vous voulez. Donc, c'est très bien, c'est intéressant. Mais après, comment évaluer si l'étudiant, il va avoir besoin d'un quart d'heure en plus par heure, ou de 20 minutes, ou de 10 minutes, quoi. Alors, donc, au vu de l'évaluation des besoins qui est faite, les aménagements qui peuvent être proposés, en majorité, hein, et bien entendu, ça va être du temps supplémentaire. Que ce soit, en fait, hein, on va le différencier, hein, que ce soit pour les épreuves écrites, pour la préparation écrite des épreuves orales ou pour les QCM, il n'aura pas forcément le temps supplémentaire suivant le type d'épreuve. Ça pourra être aussi l'utilisation d'un ordinateur qui sera son ordinateur personnel ou un ordinateur prêté par l'université. L'utilisation de logiciels. Alors pour les dyslexiques, ça va être surtout des logiciels de correcteur d'orthographe, hein, type Antidote. Les logiciels de reconnaissance vocale, type Dragon Speaking ou Medialexi, sont plus utilisés par les dyspraxiques ou par les étudiants qui ont vraiment des troubles moteurs au niveau des membres supérieurs. C'est vrai que tant qu'ils peuvent utiliser l'ordinateur et le clavier, on va essayer de les autonomiser de plus en plus là-dessus. Une salle individuelle ou un petit comité. Individuel, c'est voilà, si l'étudiant va dicter à son logiciel. Un petit comité, en général, les étudiants qui ont du temps supplémentaire seront en salle en petit comité. Ce qui va les aider aussi beaucoup dans le sens où il y a souvent des troubles de l'attention qui sont associés, de la concentration. Ça va permettre aussi d'augmenter leur capacité de concentration. Et après, à titre un petit peu plus exceptionnel, parce que c'est moins demandé par les étudiants, mais on va aussi pouvoir proposer en fait un agrandissement des sujets d'examen. On a pu voir donc ce matin que effectivement un agrandissement des caractères va permettre de faciliter la lecture, de leur demander un effort moins important, et ils pourront du coup plus se concentrer sur la compréhension du texte. On sait aussi qu'il y a certaines polices qui sont beaucoup plus adaptées pour les dyslexiques, parce qu'elles permettent vraiment de mieux séparer les caractères, donc ça va être surtout des polices comme Arial. Voilà, mettre un double interligne aussi pour bien séparer, voilà, pour éviter les troubles un petit peu du balayage, en fait, et du texte. Après, c'est vrai que plutôt que de proposer des aménagements comme ça à un certain nombre d'étudiants, je pense que l'idée, ce serait plutôt de sensibiliser les enseignants, en fait, hein, pour qu'ils rédigent leur sujet d'examen dans une police, voilà, type Arial, avec un caractère, une police suffisamment grande, au moins Arial 12, et faire des sujets assez aérés, en fait, hein. Donc, c'est important quand même de rappeler que tous ces aménagements, ils sont préconisés dans le cadre du règlement d'examen, qu'on est quand même obligé de respecter. On peut pas préconiser n'importe quoi. Et du coup, parfois même, on travaille avec vraiment le doyen et l'enseignant pour respecter en fait l'épreuve et ne pas dénaturer l'évaluation. En tout cas, je ne sais pas si vous connaissez le guide de l'accompagnement de l'étudiant handicapé qui a été donc rédigé par la CPU. Dans ce guide, en tout cas, il ne donne aucune indication sur ce qui peut être mis en place en fait pour les étudiants dyslexiques. Donc là, on est vraiment bien en fait dans le cas par cas. Hein. C'est une évaluation au cas par cas selon les besoins spécifiques de chaque étudiant. Tous les étudiants dyslexiques n'auront pas les mêmes besoins. Okay. Alors là, dans le cadre des aménagements de la pédagogie, il en existe une multitude. Hein, là, je vais vous présenter un petit peu les plus fréquemment demandés par les étudiants. Alors c'est sûr que en premier ça va être une aide à la récupération des cours. Cette aide à la récupération des cours, elle peut prendre plein de formes différentes. Hein. La mission handicap fait appel à des donneurs de notes bénévoles, donc c'est des étudiants qui vont donner leurs cours à la mission handicap pour les étudiants en situation de handicap. La mission handicap aussi va essayer de récupérer des cours par les enseignants. De plus en plus de cours aussi sont mis par les étudiants sur Facebook, par les enseignants sur les plateformes pédagogique. L'enregistrement audio aussi des cours peut parfois aider les étudiants, dans le sens où justement ils vont être soulagés de cet effort de lecture et pourront mieux comprendre et retenir leurs cours en l'enregistrant. Les étudiants aussi en situation de handicap ont accès à la photocopieuse du pôle handicap pour photocopier voilà les cours qu'ils auront pu aussi récupérer de leur côté. On va leur conseiller aussi de participer au tutorat qui est en fait mis en place pour tous les étudiants, hein, principalement pour les étudiants de première année. C'est fait par des étudiants de master. Et parfois, à la demande vraiment de l'étudiant, il pourra demander un soutien pédagogique plus précis sur voilà. Une difficulté précise, et ça pourrait être mis en place après évaluation de l'équipe plurielle. Les étudiants en situation de handicap ont aussi accès à des salles de travail en fait qui sont mises à leur disposition. Alors, les difficultés rencontrées dans la mise en place des aménagements. Alors bon, c'est vrai que tout d'abord, les salles en petit comité, hein, pour les étudiants qui ont du temps supplémentaire, etc. Ça représente forcément des contraintes financières et logistiques pour les universités, pour les composantes qu'elles font souvent remonter. Le problème aussi, c'est qu'il y a souvent pas assez d'ordinateurs en fait disponibles au sein des universités. Ou alors l'ordinateur personnel est souvent un peu mal vu. Alors après, pareil, chaque université adopte un petit peu sa propre politique. Certaines universités n'acceptent que l'ordinateur qui sera prêté par l'université. D'autres sont plus tolérantes, voilà, et acceptent les ordinateurs personnels des étudiants. Mais c'est vrai que les pauvres, ils sont toujours en situation un peu inconfortable quand ils ont leur ordinateur personnel. On leur fait pas beaucoup confiance. Alors que je pense qu'en plus, l'ordinateur, enfin, on va vraiment y venir de plus en plus. Hein, c'est vrai qu'à l'université, on a tendance à le mettre, on va dire, assez facilement. Je pense que c'est quand même, on y vient de plus en plus, là, même le concours de l'internat, hein, maintenant, il se passe uniquement sur ordinateur, quoi. Donc, et ça va être, dans tous les cas, l'outil de travail, de toute façon, de tous nos étudiants. Donc, je pense que c'est dommage de limiter, en tout cas, l'utilisation de l'ordinateur. On sait que ça les aide, déjà, à rendre une copie qui est lisible, qui est pas trop... corriger plein de fautes, ça aide aussi forcément dans la correction de la syntaxe quand une phrase est mal formulée. Enfin, je pense que c'est vraiment un outil qui est important en tout cas pour les dyslexiques. Ensuite, la question du temps majoré, c'est vrai que voilà, on donne un peu ça, on a l'impression de les aider avec ça, alors qu'en fait, si on leur explique pas déjà comment bien l'utiliser, et puis en plus, un temps majoré pour une épreuve de 4 heures, ça va faire 5h20, c'est hyper long, c'est fatigant, donc voilà. Est-ce que c'est vraiment aidé? Dans tous les cas, en tout cas, chaque étudiant n'en aura pas besoin de la même façon. Ceux qui ont vraiment des difficultés en lecture, ça va être vraiment pour lire et comprendre le sujet. Ceux qui ont une grosse dysorthographie, ça va vraiment être pour se relire, pour corriger les fautes d'orthographe. Voilà, c'est important que chaque étudiant identifie vraiment ses besoins et comment il va utiliser aussi ce temps majoré pour qu'il lui soit utile. Après, bon, des fois, on ne sait pas. Hein, mais... Alors après, oui, voilà, on parle de dyslexie. Parfois, les étudiants, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment du cas par cas. Alors, c'est pas parce qu'il y a un diagnostic de poser qu'il y aura, voilà, un type d'aménagement qui sera mis en place. C'est parfois difficile de leur faire comprendre que, voilà, pour une même pathologie, il y a des aménagements qui sont différents qui vont être proposés aux étudiants. Ça peut être difficile aussi de les pousser un petit peu vers cette démarche d'autonomisation, dans le sens où... Déjà, voilà, c'est vrai que au bac, il y a un tiers-temps qui est mis de façon un peu systématique. Quand on essaye de le réduire, c'est un petit peu difficile. Notamment, en fait, là où c'est important de le prendre en compte, c'est pour tous les concours de la fonction publique où, en fait, les étudiants ne pourront bénéficier des aménagements que s'ils ont une reconnaissance de leur handicap par la MDPH, et les dyslexiques n'en ont pas. Donc c'est vrai qu'on leur donne du temps supplémentaire tout au long de leur cursus, on les habitue à travailler avec un temps supplémentaire, et le jour de l'examen, ils se retrouvent vraiment en difficulté, là, pour le coup. Et enfin, pour la récupération des cours, ça peut s'avérer aussi parfois difficile de récupérer des notes de qualité, de trouver des donneurs de notes bénévoles. Et en fait, oui, c'est surtout que déjà, la prise de notes est difficile en fait pour tous les étudiants. Hein, ça, c'est sûr. Ils sont pas du tout formés à ça, surtout quand ils arrivent à l'université. Ils passent du secondaire où on leur dicte tout à l'université, où il faut prendre les notes. Donc, c'est un problème qui est surtout rencontré parmi les premières années. Après, c'est important quand même de rappeler que les dyslexiques sont assez autonomes sur la prise de notes et arrivent à faire assez facilement appel à la solidarité aussi étudiante pour compléter leur prise de notes.
Alors pour finir, ce qu'on voulait vous dire, c'est que on travaille depuis 2012 sur cette problématique des dys et de l'enseignement supérieur. On a initié avec les collègues des établissements un groupe de travail qui associait les associations spécialisées, les médecins, les chargés d'accompagnement handicap, les enseignants, les chercheurs, les orthophonistes, de façon, comme je vous le disais tout à l'heure, à un peu définir quelles étaient les problématiques collectives rencontrées, qui faisait quoi dans son établissement, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. C'est ce qui nous a amené, du coup, à solliciter le LabEx Aslan pour formaliser une collaboration et qui a permis de structurer le projet de recherche étudiste qui vous sera présenté tout à l'heure. Voilà. Merci.